remue-ménage. Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bienvenue en ce mercredi très ensoleillé sur Remue-ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et quel va être notre menu pour cet après-midi? Eh bien, je crois une discussion qui risque d'être fort passionnée autour d'un livre qui est l'objet de notre nouveau rendez-vous avec la librairie L'Inédite, mais aujourd'hui avec une rencontre qui s'élargit, et oui, à partir de l'initiative de L'Inédite qui est de vous proposer chaque mois la lecture d'un livre ou de plusieurs livres. Eh bien, nous avons fait une nouvelle lecture à plusieurs, cette fois-ci avec Isabelle, par exemple, qui a lu elle aussi le livre et qui nous dira ce qu'elle en a pensé, avec Viviane de Radio Pleine Lune, que vous connaissez déjà, et qui nous parlera aussi de ce livre. Et nous aurons en téléphone en direct Mélie, qui a lu ce livre il y a longtemps, qui est d'origine sicilienne et qui nous parlera de très très près de quoi il s'agit. Puisque, pourquoi évoquais-je la Sicile? Parce que le livre que nous avons lu toutes ensemble, eh bien oui, il évoque la Sicile et les femmes siciliennes. Peut-être vous voyez de quel livre je cause, parce qu'il a fait sûrement suffisamment parler de lui. C'est « Je voulais des pantalons », livre qui a été écrit par Lara Cardella, une jeune Sicilienne de 19 ans. Livre qui a provoqué pas mal de scandales en Sicile et en Italie. Alors nous allons en discuter tout à l'heure. Mais tout de suite, les Bananarama.
Thank you.
Miss Nina Simone.
And the strongest hands. I love the ground I'm wasted. Black is the color of my true love's hair, of my true love's hair. Yes, I love the ground where he goes, and still I hope that the time will come when he
Nous voilà partis en Sicile avec les belles voix de ces femmes qui chantent le cœur des vierges. Alors je souhaite la bienvenue à Evelyne, notre comparse de chaque mois de l'Inédit. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Rejointe aujourd'hui pour la première fois par Isabelle.
Bonjour.
Et avec la chance d'avoir avec nous Viviane de Radio Pleine Lune que vous connaissez bien.
Coucou.
Alors nous nous sommes toutes réunies pour parler d'un livre que nous avons lu toutes les quatre. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, « Je voulais des pantalons » écrit par une jeune Sicilienne de 19 ans, Lara Cardella, du moins qui avait 19 ans lorsqu'elle a écrit ce livre. Alors ce livre, il a une histoire particulière puisque lorsqu'elle l'a écrit, ce livre a fait ensuite un scandale énorme dans son village, dans sa région et a remonté toute l'Italie pour faire un scandale dans toute l'Italie finalement. Alors peut-être pour commencer, bien évidemment, pour que vous compreniez tout de suite le propos de la bagarre, le propos du scandale et toute notre discussion qui va s'en suivre, eh bien, je crois que le plus simple, comme toujours, c'est d'abord de raconter ce qui est contenu dans le livre. Peut-être qu'il faut préciser d'abord dans quelles circonstances Lara Cardella a pu écrire ce livre. Alors qui c'est qui nous raconte? Comment se fait-il que... Est-ce qu'elle était écrivain de longue date à 19 ans ou comment ça s'est passé?
Non, en fait, Lara Cardella a répondu à un concours lancé par un journal. Alors maintenant, je ne me souviens plus du tout le nom du journal italien. C'était un concours de nouvelles et elle a envoyé cette longue nouvelle, ce petit roman, et qui a été publié, qui a eu un succès énorme. Parce que tu parlais de scandale, alors c'est vrai qu'il y a eu un scandale dans son village et peut-être un peu plus largement en Sicile, mais en Italie, il a eu un succès il a eu un très grand succès. Et alors, il a été édité à la suite. Donc, elle a gagné ce concours et c'est comme ça que ce petit livre a été ensuite édité. Et puis, il a remporté un prix, le prix du premier roman, le prix Elsa Morante 1989. Mais donc, c'est par hasard qu'elle s'est trouvée lancée dans cette carrière d'écrivaine. C'est pas du tout, c'était pas un projet. Elle a simplement répondu à une annonce.
Alors, de quoi parle ce livre qui a eu tant de succès et qui a représenté, soulevé tant de controverses en même temps? Evelyne, tu veux bien nous raconter le début de l'histoire? Alors, nous sommes en Sicile, à Licata, un petit village sicilien au bord de la mer.
Oui, et je suppose que le scandale provient du fait que Lara Cardella s'attaque à la situation des femmes siciliennes, tout au moins dans la campagne sicilienne, et à l'éducation des petites filles dans les maisons de campagne siciliennes. On pourrait peut-être dire deux, trois mots à propos du titre. Je voulais des pantalons parce que c'est un peu le fil conducteur des premières 100 pages. Elle raconte son héroïne qui s'appelle Annetta, est une adolescente qui a quelques souvenirs de petite fille, mais j'ai plutôt l'impression qu'elle parle du haut de ses 13-14 ans, dans la majeure partie du livre. Et cette adolescente voudrait porter des pantalons. Et alors sa première idée, vous allez peut-être la trouver un peu ingénue, mais justement, on est en Sicile et c'est peut-être possible. Moi, quelquefois, ça m'a paru un peu impossible, ce qu'elle racontait, un peu invraisemblable, mais du fait de tant d'ingénuité. Mais apparemment, elle est déjà adolescente et elle croit que la seule manière de porter des pantalons, c'est de devenir religieuse. Alors sa première tentative est de devenir religieuse, parce qu'elle a vu le prêtre de sa paroisse qui, sous sa soutane, porte des pantalons. Bon, elle découvre assez vite que les religieuses ne portent pas de pantalons, ce sont seulement les hommes religieux qui portent des pantalons.
Les religieuses découvrent que sa foi est limitée aux pantalons.
Absolument. Et se désintéressent très vite de cette vocation trop légère. Donc elle se dit, puisque je ne peux pas être une religieuse, je vais essayer d'être un homme, puisque ce sont les hommes qui portent des pantalons. Et elle se met à suivre son cousin, un de ses nombreux cousins, et pour s'identifier le plus possible à lui, à adopter un compagnon. Pense toujours dans cette même ingénuité que si elle se comporte exactement comme lui, elle sera un homme et elle aura le droit de porter des pantalons. On ne sait pas au fond exactement pourquoi elle a cette attirance pour les pantalons, mais peut-être que nous qui avons le choix toujours...
Mais est-ce que ce n'est pas parce que les pantalons, de toute évidence, représentent la liberté? Les garçons ont le droit de courir, sauter. Elles doivent sûrement être habillées toutes mignonnes dans leur petite robe avec les nœuds dans les cheveux. Elles n'ont pas le droit de se salir, les chaussettes blanches, alors que les garçons ont le droit de tout faire dans leurs pantalons. Tu crois pas que c'est symbole de liberté?
Oui, mais en même temps, elle le droit de montrer ses jambes. Alors c'est un peu paradoxal.
Alors, c'est symbolique peut-être,
parce que
non?
Si on met des pantalons, on ne les montre pas. Mais enfin, bref, elle suit son cousin dans toutes ses activités quotidiennes. Puis elle découvre assez vite que bon, il ne pourra pas être un homme parce qu'il est fait d'une manière différente et de nouveau là, on a une certaine
elle découvre le zizi de son cousin, non?
Absolument. Et puis elle découvre pas même le zizi. concrète, son cousin, elle découvre que les garçons l'ont sur une bande dessinée, La Blanche-Neige et les Sénats, revue d'une manière érotique. C'est là qu'elle le découvre. Bon, donc, comme elle ne pourra pas acquérir cet objet, elle décide de chercher une autre voie, de porter des pantalons. Et une troisième voie qui s'ouvre, c'est d'être une putain. Et alors
Est-ce que vraiment c'est la putain au sens européen de la chose, enfin européen, non, je veux dire, comment dire, traditionnel, est-ce que vraiment c'est
non,
aller dans la rue et vendre son corps?
Elle en fait une description assez cocasse finalement, et je ne sais pas si, je crois qu'Isabelle a aimé ce passage.
Oui, on en lira un extrait.
Qu'elle le lira plus tard.
Mais finissons rapidement peut-être de raconter l'histoire.
Et alors ça se termine assez vite aussi, cette expérience-là, parce qu'elle arrive à se faire inviter à une fête où elle peut enfin rencontrer des garçons. Et elle commence une amourette, mais elle est découverte le même jour où elle la commence. Si bien que ses parents sont absolument scandalisés. Et après l'avoir gardée un mois enfermée chez elle, retirée de l'école et tout, pense que la solution c'est de l'envoyer chez un oncle. Mais elle ne veut pas aller chez cet oncle-là parce qu'elle a été l'objet d'une tentative d'inceste de la part de ce même oncle quelques années auparavant. Elle refuse et malgré tout, les parents, comme c'est généralement le cas dans ces situations-là, pensent qu'elle ment et l'envoie quand même chez cet oncle. Et là, sa tante, qu'elle aime beaucoup, enfin la femme de son oncle, lui dévoile un journal qu'elle a tenu à peu près au même âge qu'avait Annetta et qui nous raconte là aussi très brièvement ce que peut être l'itinéraire d'une femme sicilienne et au fond le peu de chance qu'on a de s'en sortir et d'obtenir cette liberté de porter des pantalons. Le livre se termine, Annetta finalement va devoir épouser le seul jeune homme qu'elle a rencontré, celui qui a fait l'objet de son rejet de la part de la famille, c'est finalement celui-là, et c'est le seul qu'elle a connu et une fois, et c'est celui-là qui deviendra son mari, et elle ne portera jamais de pantalon, c'est la fin, c'est comme ça qu'on arrive à la fin du livre.
Oui, mais il y a quand même des événements graves entre-temps, elle se fera finalement violenter aussi gravement par son oncle, hein. Donc la menace...
Absolument, il y a une répétition il refait une tentative de viol, et elle s'échappe de la maison. Et elle est donc à ce moment-là reprise par ses parents et qui l'oblige à se marier assez rapidement.
Je crois que Lara Cardella, dans les interviews nombreuses qu'elle a accordées autour de ce bouquin, a toujours affirmé que cette histoire n'était pas une histoire autobiographique. Elle vit chez ses parents, elle n'a pas de problème chez ses parents, semble-t-il. Et donc, elle se défend beaucoup en disant « J'ai écrit ce livre très honnêtement en parlant de ce que je sais des femmes siciliennes ». De ce qu'on apprend en causant entre nous et de ce qu'on ne raconte jamais, de ce qu'on ne dit jamais, ce que la rumeur déforme et raconte. Mais je l'ai raconté le plus sincèrement du monde et pour rien au monde, j'accepterais de retirer ce que j'ai dit puisque les gens du village voulaient qu'elle présente des excuses publiques par rapport à ce qu'elle avait écrit dans ce livre. Alors, on va avoir au téléphone maintenant Mélina. Qui, elle, est née à Genève, mais qui est d'origine sicilienne et qui, après avoir lu ce livre, a été très bouleversée par l'histoire parce que, quelque part, elle connaît ça depuis très très près, même si, en fait, elle vit à Genève. Mais quand on vit dans une famille sicilienne, même à Genève, il semblerait que le poids des traditions existe encore énormément.
Thank you.
Allô, Mélie ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais nous raconter un petit peu comment, toi, tu as lu ce livre ? Parce que je crois savoir que ce livre t'a pas mal bouleversé par rapport à ce que tu sais, ce que tu vis dans le milieu sicilien qui est ton origine, n'est-ce pas ?
Oui. Alors, bon, d'abord, je voudrais préciser une chose, c'est que je l'ai lu en italien et les trois quarts du livre sont écrits en sicilien. Ce qui change, à mon avis, beaucoup dans la lecture, parce que le sicilien est un dialecte qui est très fort, qui a des images très très fortes. Donc déjà, je crois qu'il faudrait le lire en sicilien pour comprendre la violence des termes utilisés. Je crois que même traduit en français, on peut pas rendre cette violence-là. Parler un petit peu de ma vie, donc moi je suis née en Suisse, j'ai un père sicilien et une mère romaine, donc je précise que j'ai jamais vécu ce que Lara a vécu, mais enfin ce qu'elle raconte, mais j'ai vécu une éducation quand même qui par quelques biais ressemble un petit peu à ce que Cardella raconte de la Sicile.
Parce que même vivant en Suisse, le problème du poids des traditions siciliennes se pose quand même.
Moi, je me rends compte que même... Donc moi, je suis née en 56, et donc mes 15 ans, c'était autour des années 73, 74. Eh bien, je suis retournée il n'y a pas très longtemps, c'est encore comme ça. Je veux dire, mon père qui avait quitté la Sicile à l'âge de 17 ans, j'ai l'impression qu'en 60 ans, ça n'a pas bougé.
Parce que quand tu parles de violence du langage, par exemple, c'est quoi ? C'est par exemple la façon dont on réagit au fait qu'elle serait une prostituée, qu'elle déshonore la famille, qu'elle est
affastée. Parce que j'écoutais tout à l'heure, vous parliez de prostituée. Mm-hmm. Le mot prostituée en Sicile, dans ces termes-là, on traite souvent les enfants de putain. Mais putain, vous pouvez les traiter déjà quand ils sont tout petits parce qu'ils se comportent mal. Et après, ça prend ce n'est jamais la fille qui couche avec quelqu'un d'autre. C'est la fille qui a un comportement un petit peu trop libertin. Mais libertin, ça équivaut à oser s'allumer sur une place publique une cigarette. Ça équivaut à oser mettre une mini-jupe alors que les filles sont couvertes jusqu'en dessous du genou. Je veux dire, il ne faut pas non plus chavirer dans l'autre excès de donner à des mots qui sont des mots d'utilisation courante, parce que c'est dans le langage courant, une connotation qui n'est pas juste. Je veux dire, quand elle parle de putain, elle parle de quelque chose de très précis qui dit ça dépend le ton qui est utilisé. Là, il prend sa violence, le mot, mais c'est un mot qui est très courant, qui est très utilisé en Sicile, par exemple. Par exemple, à un moment donné, dans son livre, elle attend une réponse de sa mère et sa mère lui dit en sicilien « Amore ammazzata », qui veut dire « tu dois mourir assassiné ». C'est une chose qu'on dit aux enfants quand ils salissent. Et puis, on le retrouve quand vous êtes adolescente et on le retrouve quand vous êtes plus âgée. Mais tout ça sur des tons différents. Et c'est là que prend la violence monte dans ce livre, parce que justement, elle a un âge où elle ne peut plus supporter qu'on lui parle comme à une enfant. Et donc, les mots prennent une autre signification.
Mais quand tu dis que, par exemple, ce qui se passe dans ce livre, la vie de Lara Cardella, même si toi, tu ne l'as pas connue, tu as l'impression que ça se continue comme ça, à voir la façon dont, justement, les choses se perpétuent. Est-ce que ça veut vraiment dire que les choses ne changent absolument pas en Sicile, entre autres, dans la façon de concevoir le rôle des filles et des jeunes filles dans la société sicilienne ?
Moi, je crois que les choses changent. Enfin, elles changent, mais elles changent beaucoup plus lentement qu'on peut espérer, parce que, de toute façon, les femmes, c'est elles-mêmes qui continue à permettre cette tradition d'exister. Je veux dire, à un moment donné, Cardella dit dans son livre, justement quand on la trappe derrière un petit buisson avec son premier flirt, elle n'a pas le temps d'arriver chez elle, ça fait déjà le tour de tout le village, et au moment où elle rentre chez elle, elle attend cet ange qui vient la sauver, qui est sa mère, et sa mère, justement, à ce moment-là, elle se déchaîne contre sa fille parce que c'est son éducation qu'on remet en doute. Et ça, les femmes siciliennes, il n'y a rien à faire, quitte à se retourner contre les enfants, mais face aux hommes, elles continueront, envers et contre tout, même si elles étudient, même si elles travaillent, elles continueront à passer cette tradition qui est d'essayer de préserver leur fille jusqu'au mariage, même si ça ne se fait plus. Si ça ne se fait pas comme on voudrait, parce qu'il y a quand même des filles, on n'a jamais empêché les jeunes filles d'aller coucher avec des garçons, mais je veux dire que ça ne se sache pas, parce que si ça se sait, c'est le déshonneur dans la famille, mais dans le vrai sens du mot.
Donc par exemple, le phénomène d'arranger les mariages, comme on dit, il faut absolument la marier, ça existe toujours.
Ah oui, ça existe toujours. comme ça existe toujours, par exemple, ce qu'on appelle en Sicile la fuiuta, c'est la fuite. Je veux dire, les jeunes décident un soir de ne pas rentrer, ils vont à 60 km de la ville natale, et ils rentrent 3 jours après, c'est scandale dans la ville, tout le monde le sait, et puis on oblige les jeunes à se marier, on ne peut plus faire autrement. Alors en fait, c'est une solution de facilité que les jeunes ont trouvée depuis des siècles, ils partent 2-3 jours, et comme ça, ils peuvent être sûrs d'être ensemble. Je veux dire, c'est très très particulier. Il faut faire très attention à lire ce livre, parce qu'effectivement, la Sicile bouge, mais c'est un petit peu l'Afrique du Nord, la Sicile. Elle n'a rien à voir avec le comportement qu'ont les Italiens en général, le mode d'éducation. C'est des gens très silencieux, c'est des gens qui parlent très peu. C'est des gens qui n'ont pas du tout les mêmes comportements qu'on peut avoir dans tout le reste de l'Italie. C'est une île silencieuse, donc tout se fait avec des regards, avec des quarts de mots, donc c'est un tout petit peu particulier.
Mais est-ce que tu penses quand même qu'un livre comme celui de Lara Cardella a un effet malgré tout sur les femmes, sur la société sicilienne?
Mon avis, il aura un effet sur certaines adolescentes, mais ce sera un effet qui sera très très vite étouffé, parce qu'au moment où elles seront mères elles-mêmes, elles vont jouer le même rôle que leur mère. Et ça, on le voit avec les nouvelles générations qui deviennent aussi sévères qu'ont été... je veux dire, les mères sont aussi sévères que leur mère, que leur grand-mère, et on n'y échappe pas. Mais ça se fait petit à petit, mais il faut un temps. Je veux dire, si on a libéré d'une certaine façon les femmes en 20, 25 ans, en Sicile, je pense que d'ici une quarantaine d'années, peut-être on arrivera encore à... Enfin, on arrivera petit à petit à voir le jour, mais... Pour le moment, c'est encore lent, douloureux. Et par exemple, on ne conçoit pas en Sicile qu'une jeune fille puisse prendre un appartement toute seule, même si elle a 25 ans.
Et même si elle travaille,
même si elle étudie. Si elle étudie, on l'envoie ou chez une tante, ou on l'envoie dans un foyer où elle est surveillée, où elle ne peut pas sortir le soir. C'est très, très contrôlé.
Mais est-ce que quand même, il n'y aura pas un effet de certains passages de ce livre? Entre autres, par exemple, quand Anetta réalise que son oncle lui a déjà souvent soulevé sa robe, par exemple, et à l'époque, ça ne l'avait pas gênée parce qu'elle n'avait pas l'impression que c'était quelque chose de grave et de mauvais. Mais avec le recul, avec ce dont on l'accuse tout à coup et qu'elle découvre qu'on lui dit que c'est une horreur, alors elle découvre que ce que son oncle lui a fait est une chose qui était mauvaise et horrible.
Oui.
Est-ce que ça ne va pas aussi être une prise de conscience pour les mères qui vont peut-être un peu mieux protéger leurs filles, ou bien les filles tout court qui vont penser à elles, à réaliser plus vite certaines choses?
Mais elles font quoi? Je veux dire, moi je me suis posé la question en lisant le livre, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer? Imaginons qu'une jeune fille de 15-16 ans réalise tout d'un coup que ce qui s'est passé dans sa petite enfance, je ne sais pas, à 7, 8, 10 ans, a été un viol. Mais vous voulez, je veux dire, le scandale de ce livre, c'est qu'on a osé toucher la famille qui est sacrée. Je veux dire, on peut, surtout dans une île où l'enfant est roi, soi-disant, apparemment, puisqu'on fait tout pour lui, on construit des maisons, on fait tout pour son avenir. Et en fait, on se rend compte que l'enfant n'est pas roi du tout. Si, le garçon, mais pas la fille. Donc je veux dire, même si cette fille prend cette conscience-là, elle ne peut rien en faire. Parce qu'il y a eu une famille, justement, à Licata, il y a une famille, une fille qui a osé dénoncer son père. Je veux dire, elle est vraiment au banc de la société, loin, liquidée, on n'en parle pas, personne ne lui adresse la parole. C'est une famille maudite.
Ça ne donnera pas de l'énergie à d'autres femmes?
Je ne sais pas, mais j'ai une part de doute quand même là-dessus. Hein. Je ne crois pas qu'il y aura une grande, grande réaction. Je pense que peut-être les étudiants, peut-être la nouvelle génération d'étudiants pourront faire quelque chose. Je crois qu'ils seront plus attentifs à ce que ça ne se passe pas. Mais quant à dénoncer réellement des faits de ce genre, ça m'étonnerait beaucoup.
Est-ce que tu sais si en Sicile même, le livre a été beaucoup lu par les femmes?
Je ne sais pas, je sais qu'il a été lu. Il a été lu, je ne sais pas si c'est plus des femmes que des hommes. Ou... Je sais qu'il a été lu, qu'il y a eu un énorme scandale, mais il a battu quand même des records de vente assez incroyables. Mais je crois que ça touche un petit peu toute l'Italie. Dire si c'est des femmes en particulier, je peux pas l'assurer. Mais je crois qu'il a été quand même... Il a forcément éveillé la curiosité des femmes, forcément. Mais je ne crois pas... Ça a été une petite bombe, mais ça a été une petite bombe parce qu'elle osait dire des choses. Je me demande si on n'a pas plus fait un scandale.